Monsieur, dame, bonsoir. Il vient d'être 17h et vous suivez les programmes du studio Kalangou, le journal en français avec Rukayat Abdraman. Au sommaire de cette édition, la Haute Autorité de lutte contre la corruption Halcia a présenté ce matin ses réalisations de 2020 à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée ce 9 décembre. Les détails avec le président de l'institution dans un instant. La police de Maradi a présenté hier un réseau de 7 trafiquants d'armes. Vous entendrez le procureur de la République dans ce journal. En partie magazine de cette édition, on parlera du contrôle sanitaire pour les voyageurs par voie terrestre dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 au Niger. Jeudi 9 décembre 2021, bienvenue à tous dans ce journal. Votre droit, notre rôle, dites non à la corruption est le thème cette année de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Ce matin, au siège de la Haute Autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Halcia de Niamey, l'institution a présenté ses performances de l'année 2020. Maïmoussa El Hadj Bachir, président de la Halcia, au micro de Maman Ada.
Au titre de l'année qui est en train de s'achever, l'Halcia a été vue sur plusieurs fronts. Sur le front de la sensibilisation et de la formation des acteurs, des opérations d'observation des élections, la mise en œuvre d'un programme de promotion et de la gouvernance des services publics, la lutte pour l'organisation des examens et concours propres, la lutte contre la spoliation des biens publics, les actions pour une mobilisation soutenue des ressources internes de l'État, à travers des opérations de contrôle et de recettes fiscales et non fiscales et douanières. La Halcia a enregistré cette année plus de 185 plaintes et dénonciations portant sur des infractions diverses. La Halcia a entrepris des actions pour une mobilisation soutenue des recettes internes de l'État. Ces actions réalisées en collaboration avec la Direction générale des régies financières ont porté sur les recettes douanières fiscales et non fiscales. Au total, c'est un montant de plus de 11 milliards qui a été recouvré au cours de l'année qui vient de s'achever.
En lien avec cette journée au Niger, le monde des médias n'est pas épargné par le fléau. La corruption se manifeste de plusieurs manières, comme l'explique Souleyman Oumour Bra, le secrétaire à la communication de la Maison de la Presse. Il est joint au téléphone par Mokhtar Hamadou.
Quelqu'un qui part sur le terrain, qui n'a rien, on lui remet une enveloppe, alors qu'il est censé avoir une certaine indépendance, cette enveloppe peut effectivement influencer le traitement de son travail. Ça, c'est au niveau des journalistes. On peut aussi vous approcher pour vous dire un tel, je voudrais que dans le traitement de cette information, que vous me fassiez telle ou telle chose. Et ça aussi, on peut corrompre les journalistes. L'organe, en tant que média, il y a aussi plusieurs façons de corrompre cet organe. La ligne elle-même, on peut quand même acheter la ligne, on a vu ça. À travers aussi les ouvertures ou les offres qu'on donne aux responsables, on essaye de les corrompre et ça se voit, ça se regarde dans ce que ces médias sont en train de les faire. On sait qu'un média, dans le traitement de l'information, on doit quand même constater l'équilibre de l'information. Comme on l'a dit, si les responsables disons est corrompu, vous allez voir que l'auditeur ou les téléspectateurs ou les lecteurs ne se retrouvent pas.
Sept trafiquants, tous des Nigériens, plus 1200 cartouches d'AK-47 et une importante somme d'argent ont été présentés hier par la police de Maradi au gouverneur de la région. Le démantèlement du réseau s'est fait grâce à la collaboration entre les forces de défense du Niger et du Nigeria. Le procureur de la République a indiqué que la chaîne de ravitaillement d'armes illicites doit être brisée pour le bonheur de la population. Mokhtar Henri Martin est au micro de Mohamed Mama.
Ce réseau qui vient d'être démantelé n'est certainement pas le seul. Selon les renseignements que nous avons reçus, l'essentiel des armes avec lesquelles les chefs des gangs basés au Nigeria font des incursions dans notre pays, transitent par notre pays pour aller vers l'autre. Si nous parvenons à briser cette chaîne de ravitaillement, cela va nous permettre sans doute à court terme de pouvoir faire face aux problèmes d'insécurité auquel nous sommes confrontés et à long terme pouvoir éradiquer ce fléau qui mine notre société. C'est pourquoi il est fondamental que les populations puissent apporter leur soutien à travers des renseignements importants et à temps pour pouvoir permettre à la police nationale d'avoir des éléments qui peuvent lui permettre de mettre ces grands bandits hors d'état de nuire.
Après les événements survenus à Terra le 27 novembre 2021 ayant entraîné la mort de 3 personnes, le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, REPAD, a rendu public hier à Niamey une déclaration. Le REPAD condamne la gestion de la manifestation et appelle le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de diligenter une enquête indépendante sur ces événements ainsi que sur ceux survenus à Kaya au Burkina Faso. Abdoulaye Seydou, président du REPAD, au micro de Michel.
Le REPAD condamne avec la dernière énergie ces actes barbares et terroristes contre des populations civiles à Terra et l'usage de la force aveugle comme moyen de se faire accepter par les populations du Sahel qui en ont ras-le-bol de l'impuissance des États et de leurs partenaires étrangers face à l'insécurité et la dégradation continue de leurs conditions de vie aggravées par la mauvaise gouvernance, l'injustice et les inégalités sociales. Présente ses condoléances et exprime toute sa compassion aux familles des victimes de l'insécurité et des événements de Terra à Paris. Particulier et soins un prompt rétablissement aux blessés. Réitère son opposition de principe à l'installation des bases militaires étrangères en Afrique et plus particulièrement au Sahel, quelle que soit leur origine, sans l'assentiment des populations. Appelle le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à diligenter une enquête internationale indépendante sur les événements de Kaya et Terra en particulier et sur le rôle exact de la présence militaire de la France au Sahel, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad.
Le Conseil norvégien pour les réfugiés a réuni ce matin à Niamey pour 48 heures les acteurs de la société civile et les journalistes pour un atelier de formation sur les principes humanitaires et le plaidoyer. Tarnan Foudé Ahmed a interrogé Marine Olivesi, chargée de plaidoyer pour le Niger et le Burkina Faso.
Au cours de notre travail, il se trouve qu'il y a beaucoup de défis liés à l'accès des organisations humanitaires sur le terrain, à l'acceptation de ces organisations humanitaires. Et nous pensons qu'il est très important que la société civile, dans sa grande multitude, que ce soit les autorités locales, les OSC, les journalistes, ait une très bonne compréhension des principes humanitaires qui nous guident dans notre provision d'assistance humanitaire. C'est pour ça que dans un projet régional qui est actuellement en cours, nous avons mis en place des formations en principe humanitaire pour tous ces acteurs afin de protéger l'espace humanitaire commun qui nous permet à tous donc de travailler, de répondre aux défis actuels dans le pays. Nous avons fait une formation hier à Tillabéri en principe humanitaire auprès d'un certain nombre d'autorités locales. Il y avait des maires, des préfets, pour que tout le monde puisse participer au mieux, encore une fois, à la réponse humanitaire en cours dans le pays.
Inauguré en juillet 2019, le centre d'accueil et de protection des victimes de la traite des personnes de Zender est le tout premier au Niger construit par le gouvernement. C'est un centre qui accueille les migrants refoulés du Maghreb et ceux qui s'apprêtent à aller vers le nord. Abdoulaye Lawali, gestionnaire du centre d'accueil, explique son fonctionnement au micro de Ali Keita.
Zender est beaucoup touché par ce phénomène de migration et de trafic de personnes vers le nord et la traite qui est la conséquence de ces migrations clandestines.
Le centre a accueilli combien de personnes ?
237 victimes, dont 17 femmes majeures et 154 filles mineures. Comptons aussi 66 victimes masculines, 37 hommes et 29 garçons. On a aussi fait office camp de refoulés de la Côte d'Ivoire un moment. Et la DST a sollicité le centre pour les héberger. On ne garde pas éternellement ces victimes. On leur donne les soins nécessaires, les conseils qu'on leur prodigue. Par la suite, on fait le processus de retour en famille. Si c'est des victimes nationales, on les ramène dans leur village d'origine et avec l'aide de certaines ONG, il y a un suivi pour que les gens ne retombent pas dans le même problème. On n'a aucune assistance de l'État, on se débrouille pour le moment.
La baisse des températures constatée ces derniers temps au Niger est due à l'installation de la saison froide selon les services de la Direction nationale de la météorologie. Madame Aminou Nafissa, prévisionniste à la météorologie nationale, donne plus de précisions.
Nous sommes en pleine saison sèche froide. La saison s'est bien installée. Comme vous l'avez remarqué, les températures enregistrées ces derniers jours sont légèrement en baisse. Donc l'harmattan souffle sur pratiquement tout le pays avec des vents faibles à modérés qui occasionnent de temps en temps un soulèvement de poussière. La matinée, il fait très frais et le soir également. On commence à sentir la fraîcheur En journée, il fait un peu moins frais parce qu'il y a l'ensoleillement, c'est tout à fait normal. Pour les jours à venir, c'est vrai qu'il y aura des jours où ces températures, pour un phénomène quelconque, peuvent être en hausse ou être très bas aussi. Mais de façon générale, c'est des températures qui tourneront autour de la normale.
Le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore a signé hier un décret mettant fin hier aux fonctions de son premier ministre Christophe Marie Joseph, auteur d'une lettre de démission. Miki Rwamba, journaliste éditorialiste à Ouagadougou au Burkina Faso, estime que la démission du chef du gouvernement pourrait déstabiliser le fonctionnement de l'administration du pays. Il est joint au téléphone par Adama Dawaki.
La conséquence d'une telle situation, c'est que nous tombons dans une période de léthargie dans le fonctionnement des institutions. Parce qu'à partir du moment où le gouvernement est dissous, nous tombons dans une période où chacun est plutôt préoccupé à savoir qui sera le nouveau premier ministre du Burkina, qui sont ceux qui seront les nouveaux ministres qui vont être appelés. Du coup, il n'y a plus de travail à proprement parler au niveau des institutions, alors que c'est préjudiciable pour le Burkina, qui a un certain nombre d'urgences en matière sécuritaire, en matière sanitaire également. Faut-il s'attendre à un gouvernement ouvert ou un gouvernement d'Union nationale? A priori, il faut dire que ce que le chef de l'État, Roch Marc Christian Kabore, a annoncé le 25 novembre à l'occasion de son discours à la nation, c'est plutôt un gouvernement resserré. Et cela suppose certainement qu'il sera donc question d'un gouvernement dont le nombre sera réduit. Mais nous sommes également dans une situation où le gouvernement ouvert n'est pas exclu parce que le chef de l'État a lancé un appel à l'union sacrée autour de la question sécuritaire.
Et puis la partie magazine de cette édition. Dès les premiers cas de la COVID-19 enregistrés au Niger, le gouvernement a décidé de la fermeture en avril 2020 des frontières terrestres. C'est l'une des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie. Après 15 mois de fermeture, l'État a autorisé en juin dernier la réouverture de ses frontières. Cependant, il exige un contrôle sanitaire au départ et à l'arrivée des voyageurs. Le constat dans la région de Maradi avec Adama Dawaki et notre correspondant sur place, moi.
Au niveau des frontières au Niger, les autorités nigériennes ont installé des équipes médicales de contrôle contre la COVID-19. Et selon la direction régionale de santé publique de Maradi, des contrôles sont effectués à l'arrivée tout comme au départ des voyageurs aux frontières. Ousmane Yakouba, le responsable régional de la police sanitaire, explique le processus.
En tant qu'agent de l'État, au niveau d'une frontière, pour faire le contrôle sanitaire, ils ont leur petit matériel, notamment le thermoflash, pour vérifier les températures des personnes par rapport à COVID-19. La température de référence, c'est supérieur à 38 degrés. Et avec des signes complémentaires, comme la toux et autres, là, vous le confinez. Parce qu'on a des CCI frontaliers, on appelle l'agent de santé. Lui aussi, il fait son deuxième travail. Et le troisième niveau, s'il mérite d'être référé dans un centre de prise en charge, donc on appelle Maradi et on essaie de chercher les spécialistes pour soit lui permettre de continuer son voyage ou bien on le ramène dans le centre de prise en charge.
Ousmane Ibrahim, commerçant natif de Maradi, témoigne du déroulement du contrôle à la frontière de Issa Jibia, commune frontalière avec l'État du Katsina au Nigeria.
Quand vous arrivez à Den Issa, en présence des agents de santé, on vous fait sortir un à un du véhicule, tout en respectant la distanciation sociale. On prend votre température au cas où le thermomètre sonne, on vous met à l'écart. Sinon, vous reprenez votre place dans le véhicule. Mais moi, je peux dire pendant tout le temps que je voyage, on n'a enregistré aucune personne porteuse du virus de COVID-19.
À la mise en place de ces équipes médicales, beaucoup de passagers étaient sceptiques, mais au vu de l'évolution de la pandémie, ils acceptent de se soumettre au contrôle sanitaire contre COVID-19, a déclaré Ousmane Yakouba, le responsable régional de la police sanitaire.
Déjà là, c'est aussi une collaboration du voyageur. Personne ne souhaite être contaminé. Il y a des cas isolés, mais on arrive à les continuer parce que nous travaillons avec les forces de l'ordre à la frontière. Il y a la police qui est là, il y a les gendarmes, il y a les douaniers. Chacun, dans sa mission, il nous aide en tout cas à contenir le voyageur et ne pas échapper. Ça, je vous le dis.
Selon la direction régionale de la santé publique de Maradi, à la date du 9 décembre 2021, la région de Maradi a enregistré 80 cas positifs de COVID-19, dont 9 décès liés à la maladie.
C'est C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.